Bon midi, bienvenue à l'émission d'En Jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Toujours du plaisir à faire cette émission avec vous, malgré qu'aujourd'hui, c'est de la pluie, ça va être comme ça pour la journée. C'est pas grave. Sortez la doudou à 18 ans. Faites-vous à souper tôt. Sortez la doudou, installez-vous dans le salon avec votre famille, avec votre conjoint, et profitez du moment. Pourquoi? Parce qu'à 18h, c'est le Canada contre le Qatar.
Oh yes!
Et si on l'emporte, ça va être réglé. On va passer au moins en 32e. Comment qu'on avait ça? 32e finale?
Dans les 16e de finale.
16e de finale, et voilà. Merci Mathias. Donc, cet soir, ça se joue contre le Qatar. Ils ont un goaler de feu qui a bloqué à peu près tout contre la Suisse. Mais nous autres, on a Alphonso Davies qui va être de retour sur le terrain, le meilleur joueur canadien.
Puis c'est un match important ce soir parce que si le Canadien vient à perdre contre le Qatar, qui ont déjà une nulle, on vient s'obliger à gagner contre la Suisse,
exactement,
qui est la meilleure équipe.
Si on veut pas ça.
Non. Puis honnêtement, la façon que le tournoi est fait, faut que le Canada sorte de la phase de groupe. Là, sinon, c'est un échec. Si le Canada sort pas de la phase de groupe maintenant qu'il y a 48 équipes, c'est un échec. Match très important. J'ai hâte de voir si, au cours du tournoi, si Canada gagne. Je suis trop habitué avec le hockey. Je m'en allais dire le Canadien.
Canadien, mais c'est pas grave.
Si Canada gagne ce match-là, si la fièvre va commencer à plus arriver au Québec, j'ai envie de dire.
Ouais.
J'ai l'impression de ce que j'entends autour de moi qu'on ne sent pas tant que ça non plus que c'est la Coupe du Monde.
Mais à Boulevard 101, l'émission en jase, on la vit, la fièvre de la Coupe du Monde. D'ailleurs, hier, Harry Kane qui en marque 2 pour l'Angleterre dans une victoire de 4-2 contre la Croatie. Les meilleurs joueurs score. Mbappé a scoré 2. Haaland a scoré 2 en Norvège. Un tour de chapeau pour Messi. Puis là, c'est Kane. Quelle Coupe du Monde extraordinaire on a. Vraiment, c'est vraiment très plaisant. Mathias, tu me fais un signe de circulation.
Ouais,
il y a de la pluie. Tension à l'aquaplanage, gang. Mais là, j'imagine que c'est pas mal ça qui amène des problèmes de circulation.
Oui, puis c'est très difficile sur la rive sud, sur la 20. Je sais qu'il y a des travaux en ce moment sur la 20, mais en direction ouest, là, entre Taniata jusqu'à Président Kennedy, très difficile, c'est au rouge, là, pour un jeudi midi, là, c'est du gros trafic. Également, capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, il y a un ralentissement dans le secteur. Laurentienne en direction sud pour prendre capitale, justement, c'est au rouge. Et finalement, capitale en direction est, cette fois-ci à hauteur de Robert-Bourassa, léger ralentissement dans le secteur également. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Météo, c'est de la pluie parfois forte aujourd'hui, jusqu'à 30 à 40 mm de pluie. Demain, 20 degrés, quelques averses. Samedi, on parle d'averses. Averse à 16 degrés et dimanche 20 degrés, 60% de possibilité d'averse. Fait que moi, j'ai prévu en fin de semaine de faire un méga ménage de la maison. C'est aussi simple que ça.
Hein? tu pourras pas faire grand chose
soleil,
à l'extérieur.
Quand il sera là, puis le reste, ben, on s'occupe. C'est comme ça. Faut penser positivement. Antonine Iaccarini, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good! Je veux commencer l'émission en remerciant tous les auditeurs et tous les gens de la Ville de Québec qui étaient présents hier à la soirée du Fonds philanthropique Catherine Guillet, qui sert à financer un super beau projet en basse ville de Québec où une clinique de soins menée par les cliniques Ovel va s'installer dans le Patro Laval, clinique de soins pour les femmes et les adolescentes défavorisées qui n'ont pas de médecin de famille. On va offrir à des centaines de femmes et d'adolescentes des soins complets. Et là, si je dis des centaines, c'est parce qu'on avait 15 000 $ comme objectif. Puis, ben, on a doublé la mise, on a ramassé 30 000 hier.
Wow, bravo!
Ah, j'étais ému, j'étais touché par la générosité des gens, touché par Big Muff qui ont livré une performance extraordinaire à la scène Le Bourgneuf. Tout le monde aimait ça. Du plus jeune dans la place, qui était Milan, le fils à Reg, à la mère à Catherine Brigitte, qui m'avait dit « Faudrait pas que t'amènes un groupe qui est trop rock! » qu'on a répondu aux besoins.
C'était parfait, puis c'était vraiment une belle soirée. Puis Jeff, tu prends le temps de remercier les personnes qui étaient sur place. Mais moi, je veux prendre le temps de te féliciter puis de te remercier aussi parce que... Puis les auditeurs, vous êtes au courant, vous l'entendez souvent. Là. Jeff en travaille tout un coup. Là. Ses journées commencent à 3-4 heures le matin
pas
pour l'émission du matin. Ben non, voyons.
Pas vrai, Antoine, ça, qu'est-ce qu'il dit? De m'entrer.
Il m'interrompt, là. Il est gêné parce que je
le complimente. Ouais, c'est parce qu'il est en train de me complimenter.
Commence à 3-4 heures du matin, il fait le show du matin, fait le midi, il s'en va s'entraîner par la suite, fait du booking toute la soirée. À travers ça, c'est un père de famille qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de sa blonde. Puis malgré ça, Jeff, t'as trouvé le moyen de prendre du temps pour t'impliquer, pour faire un projet fantastique, mm-hmm. puis amasser 30 000 $.
Merci, c'est
gentil. Fantastique.
Oh,
félicitations.
Regarde, il est tout gêné d'en recevoir des compliments.
Je suis toujours gêné d'en recevoir ces compliments.
Non, mais
là,
pour
j'en
vrai.
Ben oui, il faut le dire.
Merci, c'est gentil.
Ça amène à l'admiration. Moi, je m'implique pas autant. Je pense qu'on est beaucoup qui s'impliquent pas. Puis les gars l'ont dit ce matin dans le pit stop, si on avait plus de Jeff Fortin dans la société, notre société se porterait mieux.
Ben merci, c'est super gentil. Ma mère me l'a dit. Ah, je suis fier de toi, mon fils, en pleurant.
Bon, ben en plus de ta mère, maintenant, il y a Mathias.
C'est ça.
Et j'ajoute ma voix. J'ai rien ajouté, je fais juste dire plus un.
Ouais, puis c'était le fun de voir la mère de Catherine, Brigitte, qui a accepté de prendre la parole, sur la scène, de la scène, le Bourgneuf, devant tout le monde, un discours rempli d'émotions.
Vraiment.
C'était vraiment beau. Elle avait jamais parlé dans les événements du fond depuis le début, puis là, elle avait dit, là, c'est le temps que je le fasse, puis elle le fait d'une façon extraordinaire. Je la félicite, je suis content de voir toute la famille, d'ailleurs, qui ont l'air à bien se porter. Dans tout ça. Donc, très belle soirée. Merci aux auditeurs et auditrices qui étaient présents. Merci à la Clinique Ovel. Merci au Patro Laval. C'était vraiment une belle soirée. Mathias, on va aller en manchette. Puis après, je veux justement, Antonine, qu'on commence le caucus qui est toujours politique, mais on va parler d'inspiration. Il y a quelqu'un qui nous a inspirés mutuellement aujourd'hui. Avec Mathias, en manchette.
Un phénomène rare est survenu dans l'est du Québec. On parle d'un tremblement de terre de magnitude 4.4 qui est venu secouer la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Surtout dans le secteur de Rivière-du-Loup, Rimouski, Baie-des-Chaleurs, Baie-Comeau. On a senti ce séisme-là un peu partout. Chaque année, on parle d'environ 450 séismes qui se produisent à l'est du pays. De ce nombre, on parle de 4 en moyenne qui dépassent sa magnitude de 4 en question. Pour mieux soutenir les proches aidants, le gouvernement du Québec a présenté son nouveau plan d'action pour les personnes proches aidantes. Le plan qui s'échelonne de 2026 à 2031 s'accompagne avec une enveloppe de 393,4 millions de dollars. L'objectif principal, c'est d'augmenter les ressources en répit pour les proches aidants. Un protocole d'accord a été signé hier entre les États-Unis et l'Iran. Voici les principaux points. On parle d'un cessez-le-feu immédiat pour les États-Unis, l'Iran et leurs alliés dans la région aux alentours de 60 jours pour se laisser le temps d'un accord final, la réouverture du détroit d'Ormuz, la fin du blocus américain dans le secteur également. On parlerait d'une enveloppe de 300 millions des États-Unis pour l'Iran aussi, visant la reconstruction et le développement économique de l'Iran et finalement la levée des sanctions mises en place par les États-Unis envers l'Iran. Je termine avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui a annoncé ce matin qu'il ne va pas se représenter comme candidat aux prochaines élections pour la CAQ. Ça fait maintenant une trentaine de candidats caquistes qui ne vont pas se représenter. Le député de Papineau qui a surtout nommé des raisons familiales pour expliquer sa décision.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus disponible sur la page YouTube. Ça s'écoute très bien avec l'application Boulevard qui est gratuite sur App Store, Google Play Store. 418-971-1021. Avez-vous une inspiration? Avez-vous un modèle dans la vie? Moi, mon inspiration, personne ne le connaît. Là. Non, mais c'est vrai, là. Il s'appelle...
C'est pas une vedette, là.
Non, c'est pas une vedette, là. Moi, mon inspiration, il s'appelle Pierre Rousseau. Parce que si j'ai créé mon fonds philanthropique, c'est à cause de Pierre Rousseau, qui a donné une conférence dans un repas de Québec Philanthrope où j'ai été invité pour parler d'un projet au Patro qui avait été financé par Québec Philanthrope. Puis il a dit hey, « Moi, j'ai créé mon fonds philanthropique, j'ai vendu de mes entreprises, j'ai créé mon fonds philanthropique, puis c'est un projet de famille. Donc, j'ai fait ça avec mes deux filles parce qu'il y en a une qui est à Sept-Îles, il y en a une autre qui est dans Charlevoix, puis moi, je suis à Québec. Puis ça fait en sorte que ensemble, on gère le fonds philanthropique, on donne à des organismes autant de Sept-Îles, de Charlevoix que de Québec, puis ça nous fait être ensemble, avoir un projet commun. Puis je sais que quand je vais quitter, bien, mes filles vont prendre la relève. Puis c'est lui qui m'a inspiré à créer mon fonds philanthropique.
Est-ce qu'il le sait?
Non, ben, je l'ai jamais recroisé de ma vie.
C'est drôle, hein? Il sait pas qu'il a allumé ce jour-là un
c'est
petit
vrai.
Début de feu. Qui...
T'as raison. Ouais. T'as entièrement raison. Toi, Anto, as-tu un modèle, une inspiration? Y a-tu quelqu'un qui t'inspire?
Pendant longtemps, non. Puis, ouais. Tu sais, quand on est passionné de politique, souvent les gens vont vous nommer des politiciens. Mm-hmm. Moi, j'apprécie beaucoup la politique, mais je suis pas quelqu'un d'admiratif, parce que tout le monde a ses qualités et ses défauts. Ouais. Puis souvent, étant donné que je sais beaucoup de choses sur beaucoup de monde, ben je connais aussi les côtés plus obscurs, des fois qui sont moins connus. Donc, j'ai pas d'idole comme telle. Mais récemment, dans les dernières années, j'ai croisé vraiment des gens plus... Qui m'ont davantage marqué dans ma vie. Ouais. Puis c'est aussi des personnes qui vous diront absolument rien. Ben peut-être, il y a Olga Farman que j'aime beaucoup.
Oui, vraiment.
PDG du Port de Québec. Je trouve qu'il est une personne très, très inspirante, très efficace. Une fille qui s'appelle Geneviève Quentin, qui a travaillé au gouvernement, qui maintenant est à l'Alliance touristique. Je trouve que c'est une fille qui a énormément de drive. Je la trouve vraiment bien. C'est quelqu'un qui m'inspire. C'est un nom que vous ne connaîtrez pas non plus, mais Laurent Simoneau, qui est le fondateur de la compagnie québécoise Coveo, qui est un génie et que j'admire beaucoup. On est tellement différents, lui puis moi, mais c'est quelqu'un à qui je demande souvent son avis.
Ah, ça, c'est cool!
Pour me challenger. Et il me challenge beaucoup. Des fois, même ce qu'il dit me fâche un peu. Mais ça me fait toujours avancer dans mes réflexions. Fait que vous voyez, c'est pas des artistes connus, des vedettes, des anciens premiers ministres. C'est différent.
C'est cool.
Ben oui. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs et les gens d'affaires aussi.
Oui, évidemment. Moi, Mathias, à 22 ans, l'âge que tu as, mon idole, c'était Tiger Woods parce qu'il repoussait
les...
Ben, c'est ça.
J'ai dit, mal vieilli.
Mon Dieu.
Ouais. Il repoussait les barrières à ce moment-là du golf. Bon, écoute,
il a repoussé plein de barrières.
Le golf était très raciste. Quand il a gagné son premier tournoi des maîtres, il y a des vieux joueurs de golf qui disaient, c'est ça, on va manger du steak haché avec des patates pilées puis des petits pois au repas l'an prochain. Donc, il était victime d'énormément d'intimidation. Mais... ça s'est beaucoup gâté.
Ça s'est gâté.
Donc,
ben écoute,
comme je te disais hors d'onde tantôt, j'ai été élevé dans la religion catholique et je me suis éloigné énormément de la religion catholique quand les histoires d'agression sexuelle sont sorties. Fait que je te dirais que j'ai eu la même relation avec Tiger Woods.
Ouais,
à un moment donné, j'ai fait, ben Tiger, sais-tu quoi? C'est beau, t'as défoncé des barrières, mais tu seras plus mon idole.
Ben, tu sais, puis lui, ça a éclaté au grand jour, mais connaissez-vous l'expression « ne rencontrez jamais vos idoles »
Oui, parce qu'on est toujours déçus quand on rencontre.
J'en ai une à vous raconter qui m'a tellement fait rire. Okay. Mais c'est pas moi. C'est une ministre pour laquelle je travaillais. Son idole, c'était Ginette Reno. Okay. Puis elle l'aimait tellement. Puis elle l'admirait. Elle trouvait tellement que c'est une bonne chanteuse.
Elle avait tellement hâte de voir sa Ginette.
Puis là, elle l'a rencontrée dans un tournoi de golf, Ginette Reno. Puis cette ministre-là pour laquelle je travaillais, c'était une femme très digne, très élégante. Tu sais, elle sacrait pas beaucoup, tu sais, mettons. Puis là, elle était assise en face de Ginette Reno. Puis Ginette Reno, c'est une bonne vivante. Hein? Puis c'est une bonne sacreuse aussi. Puis là, ma ministre était comme, écoute, Antonine, là, d'une vulgarité. Elle dit, je suis même plus capable d'écouter ses chansons.
Oh, j'adore!
Elle a entendu sacrer sa toute défaite l'image.
Elle parlait de sexe. Ça faisait des jokes de sexe. Une, une bonne madame vivante.
Ouais,
tu t'attends
pratiquement, Ginette, à ce que...
C'est un monument.
Là, soit droite comme une barre. Puis là, whoop!
Non.
Ça part. C'est parti.
Mais
toi,
Mathias,
c'est une idole?
C'est une bonne
une
question.
Tu peux le dire que c'est Jeff, là. C'est
ouais. Jeff, je l'ai déjà assez remonté tantôt. Non, mais pour de vrai, ça va paraître quétaine, mais quand tu as posé la question à Antonine, j'ai commencé à réfléchir. Puis la première personne qui m'est venue en tête, c'est mon père.
Oh.
Ben, ça,
ouais,
c'est
vraiment cute.
C'est
je
parfait.
Salue mon père qui va
comment
sûrement
qu'il
m'écouter
ton papa?
En rattrapage. Michel Turcotte.
Allô, Michel.
Donc, ouais. Un homme d'affaires qui a tout bâti par lui-même en travaillant. Je trouve ça admirable parce que j'ai pas toujours été le plus travaillant dans la vie, surtout à l'école. Fait que de l'avoir comme exemple, j'aspire un jour à être capable d'en donner autant qu'il en donne.
Wow,
c'est super, super beau. Moi, j'ai été inspiré aujourd'hui, puis merci Antonine, c'est toi qui m'as fait écouter ça. Souvent, quand les gens partent en politique, on devient cynique. Hein? Ouais. Ah, on sait bien, tu pars parce que tu n'allais pas gagner les prochaines élections.
Ils ne voulaient pas perdre.
Ben, tu dis que c'est la famille, mais hein, ta famille, tu n'en as pas pris soin pendant 8 ans. Puis là, t'sais, on répète ces affaires-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis aujourd'hui, ben, c'est le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui a annoncé son départ. Premièrement, j'ai été surpris pour une chose, c'est qu'il nous avait dit en ondes qu'il reviendrait.
Oui.
La deuxième chose qui m'a surpris, c'est que j'ai regardé sur Québec 125, j'ai dit, mais voyons donc, il est en train de gagner son compteur.
Absolument.
Fait que là, je me suis dit, OK, pourquoi? Il a parlé beaucoup de sa famille, je vais vous le faire entendre tantôt. Ses enfants qui ont 9 et 12 ans, puis ça fait 8 ans qu'il est en politique. Fait qu'on comprend que il est en Outaouais, faut qu'il soit à Québec tout le temps à l'Assemblée nationale. Mettons que dans les 8 dernières années, il a manqué beaucoup de moments de ses enfants.
Oui, puis il s'est séparé aussi de la mère de ses enfants. C'est honnêtement très dur sur la vie personnelle.
Ah, vraiment, il a commencé à 30 ans, donc il est encore très jeune. Il peut encore profiter des moments. Puis pour de vrai, moi, je suis un père qui n'en manque pas de moments de mes gars. Là. Football, flag football, hockey, je les coach au hockey. Je veux pas manquer ces moments-là. J'aurais pas été capable d'avoir la vie de Mathieu Lacombe. J'aurais craqué après un an ou deux. J'aurais dit, hey, ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça.
Ben, il a toffé 8 ans.
J'aurais sacré mon camp. Fait qu'il aurait toffé 8 ans. Mais une chose que je ne savais pas, c'était son parcours de jeunesse.
Ouais.
Puis je veux vous faire entendre comment il l'a raconté aujourd'hui en conférence de presse, parce que je pense que ça peut être très, très, très inspirant, que ce soit pour des adultes qui ont vécu un parcours de jeunesse plus difficile ou pour des jeunes qui sont en train d'en vivre un à l'heure actuelle et qui sont à l'écoute.
Puis en terminant, j'aimerais vous dire deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, j'ai envie de vous dire que le Québec, c'est un endroit extraordinaire où tout le monde peut aspirer aux plus hautes fonctions. Ça me touche profondément de constater que chez nous, même un petit gars un peu troublé qui a grandi dans des familles d'accueil peut devenir ministre. Si je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi, j'en parle rarement. Mais c'est parce que je crois que c'est un message d'espoir pour tous les jeunes qui aujourd'hui se sentent peut-être un peu perdus ou qui doutent d'eux-mêmes. Vous pouvez réussir, vous pouvez trouver votre place au Québec, vous pouvez réaliser vos rêves.
C'est extraordinaire.
Donc, il n'en parle pas souvent, ouais. Mathieu Lacombe. Il n'a pas beaucoup mis sa vie personnelle de l'avant.
Moi,
c'est
je savais pas ça.
Une histoire qu'il a raconté beaucoup. Mais il a vécu des difficultés dans sa famille quand il était jeune et il a passé du temps en famille d'accueil, en foyer d'accueil. Et le message qu'il veut lancer, c'est, puis je pense qu'il a raison, c'est que quand même notre filet social et notre ascenseur social au Québec. Tu sais, moi non plus, je ne suis pas née dans la richesse en passant. Puis moi non plus, comme Mathieu, je n'aime pas trop ça en parler. Mais au Québec, si tu veux, tu peux.
Mm-hmm.
Parce que c'est pas vraiment comme ça partout. Aller à l'école, non. Aller à l'université, si tu as la volonté de le faire, il y a d'autres endroits dans le monde où, je m'excuse, mais où tu es né, tu es bloqué, ouais. Là. Ben c'est pas le cas ici au Québec.
Exactement. Puis c'est un méchant beau modèle, Mathieu Lacombe. Puis c'est drôle parce que tu t'en parles pas souvent. Caroline Drolet, qui est la propriétaire des cliniques Ovel, hier, justement, quand elle a parlé à la soirée, elle a dit, moi, c'est quand je suis devenu une adulte, puis elle a été PDG du Centre Mère-Enfant, soit dit en passant, avant de partir, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vécu dans un milieu défavorisé, parce qu'elle dit, j'ai eu tellement d'amour de ma mère que je m'en rendais pas compte.
Elle l'a comme pas senti.
Sa mère était monoparentale, 2 filles, puis elle s'est jamais rendue compte qu'il était pas riche, qu'il vivait dans un petit logement en basse ville de Québec. Parce que elle avait de l'amour autour d'elle.
Mais c'est ça, elle avait de la sécurité.
Exactement.
Émotionnelle.
Ce que Mathieu Lacombe n'a pas eu, hey, barouetter d'une famille d'accueil à une famille d'accueil,
ouais.
J'ose pas imaginer les blessures que tu vis en tant qu'enfant. T'sais, chaque enfant recherche l'amour de ses parents, recherche l'amour d'un adulte significatif. Lui, il était à la recherche constante toute sa vie.
De cet amour-là, de cette sécurité.
Exactement.
Qu'il n'avait pas. Puis quand même, là, quand il est devenu ministre de la famille, tu dis,
ben oui.
Un enfant de la DPJ,
hey, c'est qui vrai, devient ministre de la famille.
Il y a vraiment quelque chose là, d'exceptionnel. Puis en terminant, pas sur Mathieu Lacombe, mais sur comme l'environnement dans lequel on vit au Québec, puis la chance qu'on a de vivre dans un endroit avec un filet social. Il y a deux choses qui font la différence. Tu sais, des fois, on voit deux enfants qui sont nés dans le même milieu, mais il y en a un qui s'en sort, puis il y en a un qui s'en sort pas, là. Bien, c'est deux choses qui font la différence. Il y a le filet social qui est important, mais c'est d'avoir une personne. Une personne, là, qui est là pour toi,
ben oui,
et qui te donne cette sécurité-là.
Exactement.
Ça fait toute la différence. Tu sais, des gens autour de nous, des fois, qui peut-être on a des amis qui vivent des situations difficiles, les enfants vivent des situations difficiles, d'être cette personne-là dans la vie d'un enfant,
ouais,
c'est, vous n'avez même pas idée comment ça peut changer leur vie.
Vraiment. Puis, tu sais, hier, on en parlait justement à la soirée aussi parce qu'on parlait de l'importance du Patro Laval, Caroline et moi. Puis, tu sais, c'est vrai, moi, j'ai toujours... Puis j'ai des excellents parents, sont encore là. Mais le patron m'a élevé de 4 ans, 18 ans. J'étais toujours au patron. Bon. Fait que, tu sais, c'est mes mentors, le patron.
Ça a fait la différence dans ta vie.
Ça a fait la différence dans ma vie à 100 millions de pourcents. Tu sais, on reçoit des textos. Moi, je veux juste... C'est vrai, ça me fait penser. Le filet social. Moi, non, vous allez m'entendre qu'il faut développer notre économie. On va en parler tantôt avec Gabriel Giguère. Il faut développer nos ressources, qu'il faut développer de la richesse. Vous m'entendrez jamais dire « Ah, maudit programme social de merde. »
Il faut les couper, mais non.
Non, jamais.
En fait, on doit développer notre économie pour payer.
Exactement.
Ce filet social-là.
C'est notre richesse.
Et qui donne la chance aux gens, justement, de se développer puis de réaliser leurs rêves. C'est ça le message que Mathieu Lacombe nous dit aujourd'hui. Mm-hmm. C'est que lui a pu réaliser ses rêves. On est dans un endroit où c'est possible de le faire. Puis... ça passe par l'éducation énormément.
Oui.
Ça passe aussi par des organismes. Tu parlais du Patro Laval tantôt. Incroyable comment c'est ce filet-là. Pas
c'est
juste
clair.
De l'État. Là. Les organismes communautaires font
toute la différence. 400 familles par mois à la banque alimentaire. Donc, imagine comment ça fait une différence. Puis, pour ceux qui se posent la question, ben oui, mais là, tu sais, il est là depuis 8 ans. Il a dû s'en rendre compte bien avant qu'il n'était pas un papa présent. Voici comment il l'a expliqué. C'est vraiment très beau également.
Je me suis ponctuellement posé la question à savoir si je souhaitais continuer.
On va le recommencer.
Depuis un an, je me suis ponctuellement posé la question à savoir si je souhaitais continuer cette vie. Et à chaque fois, je me suis convaincu que oui, parce que la motivation, la passion et le sens du devoir sont toujours là. Cependant, malgré tout ça, je sens que je suis arrivé au moment où j'ai besoin de passer à autre chose, de retrouver ma famille et de retrouver une vie un peu plus normal. Je vous annonce donc que je ne solliciterai pas de nouveau mandat en octobre prochain. Quand j'ai été élu, mon plus jeune, Thomas, n'avait qu'un an. Les gens se rappellent de lui dans mes bras. Mon plus vieux, Justin, n'avait même pas encore 5 ans. Ils ont maintenant 9 et 12 ans. Ils grandissent à la vitesse de la lumière et je sais que ces moments-là avec eux ne repasseront pas. J'ai fait tout mon possible pour être un papa présent à travers les années, mais il y a quand même une limite à faire avec les fonctions que j'occupe.
Et voilà. Donc, il a frappé sa limite. Puis, honnêtement, je le félicite d'avoir fait cette réflexion-là, d'en être arrivé à cette conclusion-là. Il y a 38 ans, la politique est sûrement pas finie pour lui.
Ben non.
Il va avoir le temps en masse d'en venir. Mais la priorité, c'est vraiment les deux petits bouts de 9 et 12 ans. J'ai adoré aussi, j'ai trouvé qu'il avait été un beau modèle lorsqu'il a parlé de la mère des enfants.
Oui.
Il a dit, on se l'était dit, on va le dire ici, vous avez la meilleure mère au monde. Hey, combien de séparations finissent tout croche, prennent le bord, les gens saillissent. Puis lui, il a reconnu tout ce que son
ex-conjointe,
tout ce que son ex-conjointe a fait. Donc, c'était vraiment, 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 vraiment bien dit. Mais là, on repasse à la politique.
Oui, monsieur.
C'est un péquiste, Mathieu Lacombe.
Et finalement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après 8 ans à défendre nos institutions, notre langue, notre culture, je mesure, même si je le mesurais déjà, mais je mesure... plus que jamais, à quel point c'est vital que des gens s'engagent et se battent pour le Québec. Parce que c'est pas toujours facile de défendre notre nation. Parce que oui, parfois, on est fatigant, puis on le sait.
Notre nation.
Parce que oui, parfois, on se fait dire qu'on exagère, qu'on dramatise, qu'on devrait se calmer. Mais la vérité, c'est que depuis la conquête, depuis plus de 250 ans, notre peuple lutte pour sa langue, pour son identité, pour son existence même. Et si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que génération après génération... il y a des femmes et des hommes qui ont refusé de baisser les bras. C'est un devoir qu'on a, un devoir envers ceux qui nous ont précédés et envers ceux qui viendront après nous. Je quitte la vie politique, mais je ne quitte pas ce combat. Personne, jamais, ne devrait le quitter. Pour ma part, servir les gens de mon pays, comme le champ de Vigneault, aura de loin été le plus grand honneur de ma vie. Donc, je profiterai de chaque instant jusqu'en octobre prochain. Merci beaucoup.
Donc, c'est quand même un statement là, de la part de Mathieu Lacombe. Il nous avait déjà dit que s'il y avait un référendum, il voterait oui, ça, c'est sûr.
Mais là, c'est parce que c'est PSPP qui parle. Non, c'est Mathieu Lacombe.
Je le trouve plus positif, en tout cas. Mais
c'est vrai, t'as raison.
C'est un autre débat.
Mais tu sais, c'est pour ça que je dis que la politique n'est pas finie pour lui, là.
Non, mais tu peux t'engager autrement, tu sais.
Ouais.
Je pense que tu peux porter des messages nationalistes et même souverainistes sans être en politique ou t'engager dans un parti politique. Mathieu Lacombe, c'est, je pense, un bon symbole, une bonne illustration de l'évolution de plusieurs Québécois sur la question. Parce que dans les dernières années, tu sais, il y a eu un moment où la souveraineté, c'était vraiment pas in. Puis je pense que c'est normal aussi, après un deuxième référendum perdant, oui, d'avoir un passage à vide, de se dire, ben là, ça marche pas. Fait que, tu sais, faut essayer trop de choses.
On a couru après les conditions gagnantes.
Puis je crois que pas mal de gens, c'est drôle parce que tantôt je parlais d'une ministre qui parlait de Ginette Reno, mais cette même ministre était très fédéraliste. Et des fois, elle me disait, à force de travailler avec le fédéral, je suis en train de virer souverainiste. Comme tu vas m'avoir, Antonine. Puis Mathieu Lacombe, il faut savoir qu'avant d'être à la CAQ, il n'arrive pas du PQ. Là, Jean-François Roberge, Simon-Jolin Barrette, c'était l'aile plus nationaliste. Il y en a là-dedans qui ont milité au PQ à une certaine époque. Mais Mathieu Lacombe, il arrive de l'ADQ.
C'est vrai.
Bon, vous allez me dire la DQ, Mario Dumont,
ben,
le référendum.
Ben là, DQ était dans le camp du oui.
Mais c'était pas si clair que ça allait être ça, son parcours.
Non.
Il a évolué dans les dernières années. Ben moi, je trouve qu'il a progressé, parce que je trouve que c'est la manière avec laquelle moi, je suis d'accord. Mais
ministre de la culture, il s'est frappé le nez que le Canada, pas à peu près, là.
Ben c'est ça. Puis il a, je pense, réussi à un endroit où beaucoup de ministres de la culture se sont butés à un échec. C'est-à-dire que c'est rare les ministres de la culture qui sont appréciés du milieu culturel tant que ça, okay? Parce que c'est toujours des déceptions. Souvent, la culture, c'est l'enfant pauvre. Dès qu'il y a des coupures, c'est davantage dans la culture. Et honnêtement, parle à des gens du secteur, du milieu, il trouve qu'il s'est battu pour son secteur, pour
vraiment
sa clientèle. Et il a fait beaucoup de choses entourant aussi la découvrabilité des contenus. Puis ça, c'est pas quelque chose qui fait les grands titres beaucoup, mais c'est un des enjeux contemporains les plus importants. Mm-hmm. Parce que si vraiment tu veux continuer le combat dont il parle dans sa citation, quand il dit « il faut pas baisser les bras pour défendre notre nation », mais dans un univers où c'est le Far West, où c'est les GAFAM qui vont contrôler la culture, ce qu'il a fait au niveau législatif, Mathieu Lacombe, c'est très important. Il n'y avait pas nécessairement tous les leviers. Le fédéral en a plusieurs. Ça, c'est le grand malheur aussi d'être une province à travers une fédération. Mais ça, je pense que ça va vraiment faire partie de son legs. Il y a travaillé très, très sérieusement et il s'est attaqué à un enjeu qui, je pense, les gens n'ont pas encore réalisé à quel point ça va devenir grave. Mm-hmm. Il s'est attaqué à ça avant, justement, qu'il soit trop tard. Tu sais, souvent, on éteint des feux en politique. Je pense qu'il a semé des graines importantes pour la suite.
Non, bravo à Mathieu Lacombe pour son passage en politique de 8 ans. Honnêtement, moi, j'en retiens un ministre très impliqué, un ministre présent pour les besoins, justement, du Québec. Bravo d'avoir été aussi transparent dans son conférence de presse. On se plaint souvent des langues de bois puis
des lignes de presse toutes faites,
des politiciens qui disent toujours la même affaire. Aujourd'hui, dans sa conférence de presse, j'ai vu un être humain qui a une décision déchirante à prendre, qui l'a pris en mettant ses valeurs personnelles à l'avant-plan. Puis
je peux te dire aussi, Jeff, que la CAQ s'est battue jusqu'à la dernière minute pour essayer de le convaincre de rester.
Ben oui, c'est clair.
Il ne voulait pas le perdre.
Mais non.
Puis c'est sûr qu'on peut se dire, c'est sûr, ils en ont tellement perdu. Mais Mathieu Lacombe, en plus, c'est vrai, tu le disais, son comté n'est pas perdu. Hein?
Non,
des comtés que la CAQ peut aller chercher. Mais vraiment,
il faisait clairement partie de la relève, là.
Mais il était brûlé.
Ah oui, brûle. Ben, je le comprends. Allez, Outaouais, Québec, les deux enfants, Outaouais, la séparation, tout à l'heure. Oh, bah, bah.
Puis plus loin que ça, on commence à sentir, j'ai l'impression, que depuis plusieurs mois, toute la situation avec François Legault, la CAQ a chuté dans les sondages, que ça a été très difficile, que ça l'a brûlé tout le monde à la CAQ, autant des députés que des ministres.
C'est sûr que ça contribue. Puis tu sais, c'est ça, des fois, les gens vont dire, ben c'est sûr, ça va pas bien à la CAQ, fait que le monde s'en va. C'est sûr que ça fait partie de la réflexion.
Oui.
Quand tout va bien, puis tu gagnes, puis tu te les doux, puis tout le monde te félicite dans la rue, c'est sûr que ça te fatigue moins, là.
Mais y a-tu l'aspect aussi que François Legault, c'était vraiment le bon père de famille? Puis là, quand t'as perdu ton bon père de famille, tu te retrouves perdu. Puis c'est pas des flèches que je lance envers Christine Fréchette, loin de là. C'est juste que, tu sais, combien de fois j'ai entendu des politiciens ici en ondes à Boulevard 101 nous expliquer à quel point ils étaient en amour ou en amitié profonde avec François Legault.
Je pense pas que c'est le cas pour Mathieu Lacombe. Il y en avait plusieurs, mais tu sais, Mathieu Lacombe, c'était pas le c'était pas comme... D'ailleurs, ça me fait rire, parce que j'allais dire Christian Dubé puis Pierre Fitzgibbon, mais Christian Dubé, cette semaine, a dit « C'était pas mon ami,
c'était François Legault. » C'était un partenaire.
Un partner. Moi, je pense pas que c'est le départ de M. Legault. Puis Mathieu Lacombe, ça a été un des premiers à appuyer Christine Fréchette, une très bonne relation avec elle. Donc, j'y vois vraiment une décision personnelle et familiale. Mm-hmm. Puis même, j'ai envie de dire, une décision de santé mentale. Parce que il a dit, je suis arrivé au bout. Là.
Ah oui, de toute façon, à lui voir les traits en conférence de presse, là,
on comprenait. Il n'y a pas démissionné en plein milieu de son mandat, là?
Non. Ben justement, un auditeur nous écrivait ça. Il disait, respect parce qu'il nous a pas coûté 600 000 pour une élection partielle.
Fait que, tu sais, c'est le bon moment de prendre ce genre de décision-là plutôt que de se relancer cet automne parce que tu veux pas nuire à ta formation politique. Fait que tu dis, OK, je vais y aller, puis finalement, t'es brûlé raide, puis après deux ans, t'en vas. Tu sais, c'est mieux ça. Là.
Ouais, tu sais, je fais le comparatif avec Joël Boutin dans Jean Talon. Lorsque j'ai fait un podcast avec elle, tu sais, c'est ce qu'elle m'a avoué. Elle a dit, écoute, moi, je suis retourné parce qu'elle voulait terminer un projet important pour Michel Sarrazin. Puis elle dit, quand ça a été fait, là, après ça, je me suis retrouvé, puis j'ai fait.
Qu'est-ce que je fais ici?
Ouais. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai plus d'énergie, ça me tente plus de faire de la politique. Mais Vierge vient de demander un mandat de 4 ans, puis elle a pris la décision de partir. Elle s'est fait très critiquer et avec raison.
Ben oui, elle a payé un coût politique personnel à ça. Elle a pris sa décision. Fait que, tu sais, je pense que pour Mathieu Lacombe, le timing est bon. C'est sûr que le timing pour la CAQ est moins bon, mais pour les électeurs, pour le contribuable et pour lui-même. Mm-hmm.
Matière circulation avant qu'on passe au moins beau en politique.
Ouais, je veux juste vous rappeler, là, d'avant, c'est un beau bordel présentement. Il fait pas beau sur les routes, puis en raison des nombreux travaux, là, je pourrais pas vous dire exactement c'est lesquels, parce que l'avant, direction ouest, c'était presque a beaucoup de travaux dessus, mais ça circule à une voie par moment. Donc, l'avant, en direction ouest, de Taniata jusqu'à Président Kennedy, c'est du pare-choc à pare-choc. Très difficile pour l'instant. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto.
Bon, le moins beau en politique, Charles Milliard. Le délai de 72 heures était hier après-midi. Voici ce qu'il a dit hier soir sur les ondes de Nouveau TV.
Alors aujourd'hui se termine le délai. Je vais rediscuter avec les instances du parti
mais
ce
qu'est-ce
soir.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez y aller avec d'autres poursuites?
J'ai pas d'annonce à faire officiellement aujourd'hui. Là, le délai se termine, mais écoutez, on a quand même le temps de réfléchir. C'est un dossier sérieux.
Et ce matin, en point de presse pour la candidature de Charles Hudon dans Vanier-les-Rivières.
Au niveau juridique, on a jusqu'à un an après le dépôt d'une mise en demeure. Alors moi, ce que je vous dis ce matin, c'est que le délai qui était imposé concernait M. Plamondon. Il a décidé de ne rien faire dans les 72 dernières heures. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 72 dernières heures, c'est qu'on a vu deux styles de leadership émerger au Québec. Dans une perspective, encore une fois, de bienveillance, d'appeler tous les chefs politiques à une campagne électorale basé sur les idées et non sur des allégations trompeuses. Mm-hmm. Alors, je réitère, je suis moi aussi, il semble entêté, je suis moi aussi entêté à ce qu'on ait une campagne électorale de qualité. Alors, je demande à tous les chefs de méditer là-dessus.
Méditer là-dessus, la bienveillance. Dans le fond, la politique, Antonine, selon Charles Milliard, c'est un monde de calinours où tout le monde va se flatter à bedaine et dire... T'es beau, mon petit libéral. Je le sais que t'es fédéraliste, puis moi, je suis péquiste, je suis souverainiste, mais je te trouve tellement beau. Ah, merci, souverainiste. Je t'aime, moi aussi. Est-ce qu'on va prendre le thé ce soir? Ah oui!
Mais tu sais, le pire, là, on refait le cours des événements. Ouais. Quand PSPP a dit que le Parti libéral avait peut-être, je pose des questions, ouais, des liens avec le crime organisé, la chose à faire, c'était de dire, écoutez, Paul Saint-Pierre Plamondon fait diversion. Parce qu'il n'a pas le goût de parler de son bilan qui est inexistant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la session parlementaire, le PQ?
Exactement.
Moi, je n'irai pas là. Ils veulent aller dans la boîte. Qu'ils y aillent, je n'y vais pas. Ça aurait été la fin de la nouvelle.
Ben oui.
Plutôt que de prolonger une espèce de faux suspense.
Ça s'est passé vendredi dernier et là, on est jeudi. Ça fait 6 jours.
Ils prolongent PLQ, crime organisé, UPAC.
Puis là, ils prolongent encore.
Puis, bon, ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fin de semaine, en fait, quand PSPP a dit ça, tous les vieux libéraux, les anciens, tout le monde était fâché noir, OK? Bien insulté. Ah ben, c'est pas vrai que PSPP va nous faire des liens avec le crime organisé. Il faut faire quelque chose. Fait que là, ils l'ont craqué. Puis là, ils ont décidé, ils ont mis des avocats là-dedans. C'est toujours la chose à faire, évidemment, en politique.
Ben oui.
Et ils sont arrivés avec cette affaire-là. Le PQ était mort de rire. Ils se disaient, on s'en fout. Qui nous poursuivent? Ils vont juste avoir l'air plus fous. Et là, finalement, le deadline arrive. Puis évidemment, que tu... dans le fond, c'est un peu comme s'il jouait au poker. Il a tout mis ses jetons sur la table. Puis là, ben PSPP, il a dit « OK ». Il l'a calé, il a tout mis ses jetons sur la table. Puis il est comme « Vas-y, montre-les tes cartes ».
Vas-y.
Puis finalement, il y avait un 2 puis un 4.
Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas la paire d'as. D'ailleurs, on se pose beaucoup la question « Qu'est-ce que le Parti libéral du Québec à l'heure actuelle, malgré qu'on vient d'annoncer une 5e bonne candidature dans la région de Québec et que le Parti libéral est 4e dans la région de Québec avec un haut gradé de la SQ, Charles Hudon, un gars qui s'est spécialisé dans les enquêtes fiscales et de fraude. » Alors, Charles Hudon est en entrevue à Mario Dumont ce matin et il lui a posé la question, t'es pourquoi le Parti libéral? Fait que je me suis dit, bon, enfin, je vais avoir ma réponse.
On l'attendait.
Qu'est-ce que le Parti libéral du Québec?
Que j'ai décidé de me lancer à la politique, la question, c'était la deuxième question, mais la réponse est venue très vite par rapport au programme, par rapport à la vision du Parti libéral.
C'est
la vision qui me rejoignait le plus comme objectif que j'ai décidé de me lancer à la politique.
Ouais.
J'ai eu quelques échanges avec son chef. Les idées que je proposais rejoignaient également sa vision. Le jumelage s'est fait quand même rapidement avec le Parti libéral. Mm-hmm. Et je ne suis pas d'avis qu'en ce moment, il faut diviser les Québécois. Je suis plus d'avis qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, la turbulence, qu'il faut s'unir, se rassembler, avoir une belle nation québécoise. Donc, c'est pour ça que je joins le Parti libéral pour me lancer en politique aujourd'hui.
Bien, il y a la vision des Calinours aussi.
Oui!
Bien, si, il partage ça.
Ça fait bien.
La vision des Calinours puis l'autobus du non. C'est ça, le Parti libéral.
Il ne faut pas diviser.
C'est ça. Le Parti libéral, qui était reconnu pour l'économie et la saine gestion des finances publiques, s'est juste rendu un autobus où « Tu votes quoi? Je vote non. Embarque! »
Ben c'est ça, puis je trouve que...
Il n'y a pas de fil conducteur, c'est malade.
Exactement ce que je veux dire. C'est l'absence totale de fil conducteur. Puis honnêtement, tu n'as pas besoin d'y aller dans le détail. Okay, c'est vrai que les gens ne lisent pas les programmes. Okay, on va dire la vérité. Mais 3-4 idées... fort.
Ben oui.
Où est-ce qu'on comprend, tu sais, à peu près c'est quoi ton projet politique? Puis d'ailleurs...
Même la CAQ les a, ça. Identité, laïcité, économie. Même la CAQ a ces thèmes-là.
Il n'y a personne qui peut dire que la CAQ n'avait pas d'idée. Il y avait
non,
du contenu.
Non. Hey, c'est juste qu'ils n'ont pas bien exécuté.
C'est ça. Et en 2018, quand la CAQ est arrivée, il y avait 200 promesses derrière la cravate. Il en avait proposé des affaires. Bon, le Parti libéral a présenté un plan sur le français avant-hier.
Ouais.
Vous en avez sûrement parlé avec Emmanuel.
On en a parlé avec Emmanuel. T'sais, lecture avant tout, c'est un beau moyen la lecture, mais c'est juste que ça ne viendra pas protéger le français dans
Écoute,
les industries.
Je ne te parlerai même pas du fond des choses parce que c'est déjà ce que j'en pense. Mais sur la forme, la seule idée claire qu'on a, c'est sur la langue, c'est son moins bon sujet. Veux-tu m'expliquer pourquoi c'est pas de l'économie puis les
T'as
régions?
Tellement raison.
Donne-moi du concret sur ces éléments-là. C'est le terrain sur lequel t'es fort. Il arrête pas de jouer sur le terrain. On dirait qu'il veut nous prouver. C'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis pas bon en langue. C'est peine perdue. Ouais. Arrête. Tu seras jamais aussi bon que la CAQ et que le PQ sur ce terrain-là. Va sur le terrain de l'économie.
Ben oui, va sur le terrain où tu vas être gagnant, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et juste pour terminer en politique provinciale, parce que je veux finir le caucus en parlant de Donald Trump, pas de blâme pour Éric Duhaime dans Arthabasca. Le PQ l'a échappé là-dessus, là, avec son histoire
ben,
de...
Quand cette affaire-là est sortie, j'avais parlé au PQ, parce que j'ai demandé au PCQ et au PQ leur version des faits, et ça se tenait. Je comprends pourquoi ils ont fait cette plainte-là, parce que d'habitude, tu peux pas donner des choses, c'est des dépenses électorales, puis ça a une valeur. D'habitude, c'est au prix marchand, au prix courant, et les livres d'Éric Duhaime étaient vendus à peu près 25 $ en librairie. Mais Éric Duhaime se défendait en disant, moi, j'ai demandé au DGEQ, est-ce que c'est une dépense de campagne? T'sais, est-ce que je dois dire que je dépense 25 $ à chaque fois que je donne un livre? Et le DGEQ, mais c'était pas par écrit, lui avait dit c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Donc, les deux avaient comme des raisons de croire qu'il allait avoir gain de cause dans cette situation-là. Et vu qu'Éric Duhaime avait vraiment été pas loin de la limite de dépenses que tu peux faire dans une élection, s'il fallait qu'il ajoute des dépenses dans son rapport de dépenses, il bossait le plafond.
Oui, c'est ça. Puis là, il aurait été out pour 5 ans.
C'est ça. Puis ça peut être assez tannant pour un chef de parti, mais on s'entend. Donc, finalement, Éric Duhaime a déclaré là, cette semaine que son rapport de dépenses a été accepté intégralement par le DGEQ et qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu d'enquête comme telle. Donc, je pense que c'est dossier réglé pour Arthabasca.
On termine avec Donald Trump, le président américain, qui nous présente l'entente avec l'Iran comme la plus belle entente du monde, même...
That's huge.
Même Barack Hussein Obama n'aurait pas pu faire mieux. Mais dans les faits, quand je regarde ça, OK, on va débloquer, puis là, c'est ces mots, d'après moi, les États-Unis mettent de l'argent aussi là-dedans, mais on va débloquer des avoirs iraniens pour construire l'Iran. Mm-hmm. On va débloquer le détroit d'Hormuz qui était fermé depuis, justement, le règne de Barack Obama à la tête des États-Unis. Je me trompe pas, hein?
Oui, tu te trompes, oui.
C'est ça, OK. Puis, tu comprends mon sarcasme. Et,
je voulais juste être sûr que les gens pensent pas que c'est ça. Sérieux.
Et également, ben il y aura plus d'uranium enrichi en Iran. Ils nous avaient dit ça en juin qu'il n'y en avait plus, mais là, il y en avait en février.
Là, il n'aura plus.
Mais il n'aura plus parce qu'ils ont dit... Ils ont dit qu'il n'en ferait plus, mais il n'y a pas de mécanisme de surveillance.
Non.
Fait qu'on les croit sur parole, les
Exactement.
Iraniens. On les a toujours cru sur parole. Et dans tout ça, pour ajouter vraiment une couche de stabilité grandissante, on dit à Israël, tu bombarderas plus le Liban.
Oui, d'ailleurs, Donald Trump n'était pas très content contre son ami Benjamin Netanyahu.
Ben parce que Benjamin, il a lancé des bombes hier.
Même si une entente, un accord de paix, un accord de cessez-le-feu avec l'Iran, c'était supposé de mettre fin à tout sur tous les fronts, mais ce front-là, ça a l'air que Israël, ça leur tentait
pas. Benjamin, lui, il s'en va en élection dans son pays, là. Puis son pays, il avait la guerre au Hezbollah, fait qu'il dira pas mon Donald, I'm the boss, là.
Il écoute pas. Benjamin, il écoute pas Donald
pour
l'instant.
Non, il écoute pas le boss.
Écoute, de toute façon, quand on écoute Donald Trump, c'est extraordinaire. Là, il va dire ça aux Américains. Il va dire, on a tellement avancé. On a attaqué l'Iran et regardez où ça nous a mené. On a beaucoup amélioré la situation. Les experts, présentement, disent que c'est très exactement le contraire. Écoute, j'écoutais Justin Massy, là, qui en est un des experts qu'on entend souvent sur plusieurs ondes. Il disait, moi, si j'étais l'Iran, puis qu'on m'avait présenté cette entente-là avant qu'on me bombarde, je l'aurais signé.
Mais c'est ça!
Tellement que c'est bon pour l'Iran. Mais, tu sais, je me demandais, est-ce qu'il va y avoir un coup politique aux États-Unis ou même au Canada, parce que Mark Carney a vanté aussi cet accord-là? Puis je pense que la réponse, c'est non. Pour les États-Unis, c'est plus tannant parce que, évidemment, ce qui s'est passé économiquement, quand tu joues dans le portefeuille des gens puis sur le prix de l'essence, là, en plus que dans le mouvement MAGA chez les Républicains, l'interventionnisme international, il n'y a pas beaucoup d'appui à ça. Il va en avoir un coup pour M. Trump, mais l'urgence, c'était de rouvrir le détroit, de faire baisser le prix de l'essence puis de stopper l'inflation. Mm-hmm. Puis tu sais, je veux pas être méprisante, là, mais... Tu sais, les Américains, la politique internationale, tu sais, je veux dire, ils ont de la misère à placer le Canada sur une map des fois.
Non, je comprends. Mais de l'autre côté, t'es, compte tenu que la politique internationale a eu énormément de coûts à l'interne, l'inflation, je le rappelle, là, on capote nous autres parce qu'il est à 2,2, là, il est à 4,2 aux États-Unis.
4,2, donc tu sais, ça, là, c'est killer.
C'est ça.
Puis la question en politique, quand un politicien retourne devant les électeurs, et là, il n'y retourne pas tout de suite, M. Trump, mais il y a des élections de mi-mandat l'automne prochain, c'est est-ce que ta vie s'est améliorée depuis que cette personne-là est au pouvoir? Ça, c'est la question
et
qui
Et la
tue.
Réponse va être non.
Objectivement, là, comment, qu'est-ce qu'il a à présenter comme bilan positif et dans le portefeuille des gens, surtout?
Zéro. Et même énormément, parce que j'ai suivi ça de chroniqueurs de droite économique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada, ici au Québec, disent ça n'a aucun sens, cette entente-là.
Il a perdu du monde avec ça, là.
Ah, fait que t'es même sa gang, là, qui même ici au Québec, là, d'habitude, ont les pompons de cheerleaders. Là, Donald Trump, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, là. Même eux autres font « Ouais, tout ça pour ça. »
En fait, en conclusion, le jeu n'en valait pas la chandelle. Puis ce qui est compliqué aussi, puis c'est pour ça que je te dis qu'il n'y aura pas grand coup politique, c'est que c'est pas une histoire où on s'est attaqué à un pauvre pays innocent.
Non, en
L'Iran,
effet.
Là. Je veux dire, c'est un régime épouvantable. Fait que c'est sûr que les gens, ils sont pas dans la pitié. Mais tu sais, quand Donald Trump nous disait « C'est un régime épouvantable, les gens vont pouvoir se rebeller et renverser les pauvres femmes iraniennes », il n'y a rien de tout ça qui est réglé.
Non, il n'y a rien de tout ça qui est réglé. Non, le régime est peut-être encore plus autoritaire qu'il l'était. Antonin Iacarini, toujours un bonheur de te parler.
Bon week-end.
Merci, toi aussi. On se reparle lundi. Mathias, y avait-tu la circule avant qu'on parte?
Oui, juste vous rappeler, 20 direction ouest, présentement entre Taniata et président Kennedy. C'est très, très, très difficile. Là. Donc, si vous pouvez éviter ce secteur, faites-le. Également, capitale direction ouest, à hauteur de Laurentienne jusqu'à Henri Bourassa, c'est au rouge. Rouge, leur ancienne direction sud, pour prendre capitale au Rouge également. Robert Bourassa, direction est, cette fois-ci à hauteur de Robert Bourassa, ralentissement dans le secteur. Et Charest en direction est pour prendre Robert Bourassa, également au ralenti. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Courte pause à Boulevard 101, l'émission dans la jase. Et par la suite, préparez-vous par texto 418-971-1021 parce que je vais vous parler d'épicerie sans parking dans Montréal. Puis je trouverais ça cool qu'on en ait à Québec.
Jusqu'à 14h.
L'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Midi 53 sur Québec, vous avez raté un moment de l'émission, c'est le blvd.fm où vous pouvez aller écouter les meilleurs moments de toutes nos émissions, y compris Gravel dans le retour qui va suivre à 14h comme habituellement avec Denis, Audrey et Véro. À la météo, je vous le rappelle, c'est de la pluie pour les prochains jours, donc une petite doudou, du ménage dans la maison. Aujourd'hui, c'est de la pluie, parfois forte, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle sur Québec, 16 degrés. 30 à 40 mm de pluie, 20 degrés quelques averses pour demain, 16 degrés des averses pour samedi et 20 degrés avec 60% de possibilité d'averses pour dimanche. Normalement, on devrait revoir un peu de soleil à compter de lundi. La circulation est complexe ce midi. Mathias, fais-nous un petit résumé.
Oui, il fait pas beau présentement sur les routes et ça se sent. 20 direction ouest, c'est très difficile entre Taniata et Président Kennedy présentement. Il y a un ralentissement qui s'est créé également en direction ouest à hauteur de Taniata. En direction est, excusez-moi, justement, à hauteur de Taniata. L'accès au pont direction sud, léger ralentissement sur la 73 également. Capitale en direction ouest, c'est entre Laurentienne et Henri Bourassa, que c'est au rouge. Laurentienne, direction sud, l'accès sur Capitale est plus difficile. Pour la 40 en direction ouest, c'est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvière. Présentement, c'est au rouge aussi. Et pour Charest en direction est, pour l'accès à l'autoroute Duplessis, difficile également. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto. La température fait une différence parce que même si on n'est pas sur les heures de pointe, c'est très au ralenti. Fait que prévoyez déjà pour le retour à la maison que ça va être très, très difficile probablement.
Oui, exactement. Armez-vous de patience. Et si jamais vous avez un petit détour à faire ou un arrêt à faire aujourd'hui, bien, c'est chez Sprint que vous devez vous arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre dernière chance de mettre la main sur le carnet rabais Sprint. C'est disponible dans les dépanneurs Sprint partout au Québec et même chez Canac. Dans ce carnet-là, vous avez 20 $ de rabais sur l'essence, des breuvages gratuits et en plus, la chance de gagner un an d'essence, c'est-à-dire une valeur de 5 200 $. Faites vite, les quantités sont limitées, ça part rapidement. Arrêtez-vous aujourd'hui dans un dépanneur Sprint ou chez Canac. Mathias, on suit très attentivement la Coupe du monde de soccer, de football également, devrais-je dire. Et présentement, c'est 1-0 à la demi pour la Tchéquie sur l'Afrique du Sud. Match très important entre les deux nations car les deux équipes ont perdu leur premier match. À 15h, on va regarder avec attention la Suisse contre la Bosnie parce que les deux équipes sont dans le pool du Canada et ont fait match nul lors de leur premier match. Et je le rappelle, à 18h, c'est le Canada contre le Qatar. Sinon, on se part, mais les capitales de Québec ont perdu 13-12 hier contre les Valleycats de Tri-City. Deuxième match de suite de 13-12. Cette fois-ci, ça a été en faveur des Valleycats. Est-ce qu'il y aura un match ce soir? Je regarde dehors. D'après moi, il n'y aura pas de match au Stade Canac. Et les Jays l'ont emporté 3-0 hier sur les Red Sox de Boston. Les Jays ont maintenant un dossier de 36 victoires et 38 revers. Mathias, en actualité.
Oui, je commence avec une mise à jour concernant le drame qui s'est déroulé du côté de Saint-Hyacinthe hier. On a eu un peu plus de détails. On parle d'une adolescente de 13 ans, Maude Leblanc, qui est malheureusement décédée après s'être fait écraser par un camion. Ça s'est déroulé à l'angle du boulevard La Framboise et de la rue Martineau. Un chauffeur de poids lourd qui a effectué un virage à droite pour s'engager sur le boulevard n'a pas vu l'adolescente qui circulait à vélo et elle s'est malheureusement retrouvée coincée sous le camion remorque en question. On a comme information que maintenant la jeune adolescente qui est morte se dirigeait à la crèmerie après avoir terminé son dernier examen de l'année. Elle avait envoyé un dernier message à sa mère en disant « Je reviens dans l'après-midi et je ne sais pas à quelle heure je reviens. »
Nos sympathies à la famille, quel drame.
Un homme qui a menacé de mort le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans un courriel qui comportait également des propos complotistes et anti-immigration, s'en sort seulement avec des travaux communautaires. La juge qui a rendu la décision aujourd'hui a dit « Les politiciens doivent pouvoir exercer leur rôle à l'abri de toute menace. » Elle a toutefois pris la décision de simplement donner 150 heures de travaux communautaires à Philippe Clément Laberge dans le cadre de sa probation de 3 ans. L'homme de 43 ans qui avait écrit un courriel à Paul Saint-Pierre Plamondon en mars 2024 dans lequel il réclamait le départ des personnes juives du Québec et dans lequel il avait écrit « Si tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille. » La Ville de Québec a annoncé modifier sa réglementation concernant l'hébergement touristique et commercial.
Je pensais que tu allais me dire modifier sa façon de financer Québec International.
Non, modifier on n'a pas de mise à jour pour l'instant.
Façon de financer les organismes culturels, non, c'est pas ça?
Non.
Ok, c'est pas pressant, ça.
C'est vraiment pour l'hébergement touristique, en gros, à partir de maintenant, sa réglementation va viser à interdire l'implantation de nouveaux établissements d'hébergement touristique commercial dans certaines zones d'habitation où, justement, on veut prioriser l'habitation au lieu du tourisme. Par exemple, si je prends le secteur de la place Diouville, la ville va garantir qu'au moins 75 % des étages d'un même bâtiment soient consacrés à usage résidentiel. L'objectif est, entre autres, de favoriser le retour des résidentes et résidents dans le quartier, dont l'objectif est fixé à 500 nouvelles personnes. Plus de 11 000 plaintes ont été faites à l'Office québécois de la langue française pour l'année 2025-2026. On parle d'une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. La langue de service reste le motif de plainte principal, et ce, malgré une légère baisse de ce motif en question. La hausse est surtout due à l'augmentation des plaintes liées à la langue de documentation commerciale sur les réseaux sociaux et les sites web. L'Office parle d'environ une plainte sur trois qui a mené à une situation qui a été corrigée. Le Parti libéral du Québec ne poursuivra pas le PQ, du moins pour l'instant. Le Parti libéral, pour rappel, avait envoyé une mise en demeure à Paul Saint-Pierre Plamondon en lien avec ses propos liant le parti au crime organisé. Dans cette dernière, on donnait 72 heures au chef du PQ pour se rétracter en menaçant de poursuites notamment. Finalement, Charles Milliard, qui a pas complètement fermé la porte à la poursuite aujourd'hui, mais en disant que ça allait pas être pour tout de suite.
Ouais, il a tiré le suspense, on l'écoute.
Au niveau juridique, on a jusqu'à un an après le dépôt d'une mise en demeure. Alors moi, ce que je vous dis ce matin, c'est que le délai qui était imposé concernait M. Plamondon. Il a décidé de ne rien faire dans les 72 dernières heures. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 72 dernières heures, c'est qu'on a vu deux styles de leadership émerger au Québec.
C'est une bonne idée, continuer à faire traîner ce dossier-là pendant un an, sans prendre de décision.
C'était la bonne idée de
Charles Milliard. Meilleure solution.
Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a annoncé ce matin qu'il ne va pas se représenter comme candidat aux prochaines élections. Ça fait maintenant une trentaine de candidats caquistes qui ne vont pas se représenter. Le député de Papineau a nommé des raisons familiales, notamment pour expliquer sa décision. Selon les dernières données de QC 125, la CAQ menait dans sa circonscription en question. Et je termine avec un rare phénomène qui s'est produit dans l'est du Québec ce matin vers 10h21. On parle d'un tremblement de terre de magnitude 4.4 qui a touché des régions du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. On parle notamment des villes de Rivière-du-Loup, Rimouski, la baie des Chaleurs, Baie-Comeau et Sept-Îles qui ont ressenti des secousses. On parle de 450 séismes qui se produisent dans l'est du pays chaque année. De ce nombre, seulement 4 en moyenne dépassent la magnitude de 4.
Je vous parle d'épicerie sans stationnement. 418-971-1021, je veux avoir l'opinion de plusieurs auditeurs. J'ai vu ça, Mathias, c'est dans la presse ce matin. Maxi qui débarque sur la mythique Plaza Saint-Hubert à Montréal. Donc, épicerie plus petite qu'un Maxi normal. On en voit déjà ici à Québec, là, notamment dans l'ancien Énergie Cardio à Charlebourg, mais il y a un stationnement, mais plus, en frais d'espace restreint. Il y a du parking sur rue, mais qui est à parcomètre. Maxi dit qu'avec des achats de 100$ et plus, on va vous rembourser une heure de parcomètre. Et Maxi, autrement dit, prend l'alternative d'une épicerie de quartier. Donc, on dit les gens vont venir plus souvent dans la semaine consommer des produits Maxi, puis ils vont repartir à pied parce qu'il y a plusieurs résidences aux alentours, il y a plusieurs condominiums, il y a plusieurs commerces aussi de quartier qui sont là. Alors, c'est le pari que Maxi prend. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant, puis je t'explique pourquoi. Puis je me suis dit, ouais, d'après moi, ça va nous prendre ça à Québec. Puis je prends les paroles de Yannick Marceau, qui habite dans Saint-Roch présentement. Oui, dis-moi, la seule épicerie de proximité que j'ai, c'est un métro. Puis le métro, ça coûte cher. Puis quand on se retrouve dans des quartiers aussi, puis c'est des épiceries fines, des épiceries spécialisées, ça coûte plus cher aussi. Puis avec le coût de la vie, si on veut garder des résidents au centre-ville, puis t'en parlais justement avec la politique sur les lieux d'hébergement pour justement les vacanciers, bien, je me dis que ça va prendre des maxis de ce monde, puis des super C, qui vont offrir ce style de service-là dans nos quartiers centraux pour qu'on puisse garder les familles puis renouveler justement la population dans nos quartiers centraux qui sont devenus des quartiers de commerce local plus spécialisés. Puis c'est bien parfait, là, t'sais. La brûlerie plus spécialisée, l'épicerie fine plus spécialisée, le resto fine cuisine plus spécialisée. Mais il n'y a pas de commerce de ce type-là de maxi à bas prix.
Mais en même temps, tu sais, le principe du côté de Montréal de faire ça, pas de stationnement, c'est qu'on a étudié le marché puis on se dit, le monde va venir quand même. À Québec, je vais être honnête avec toi, Jeff, je fais pas nécessairement des immenses épiceries puis j'ai des épiceries qui sont en proximité. Mais j'y vais avec mon char. À Québec, là... Peu importe la vision que tu as, à Québec, on aime ça, prendre notre char, même si c'est à 5-6 minutes de marche, on va prendre notre voiture puis on va aller à l'épicerie avec notre voiture. Fait que je me pose la question, si un maxi ouvrirait, par exemple, sans stationnement à Québec, il serait-tu si achalandé que ça? Ben, est-ce que ça fonctionnerait?
S'il ouvre dans un rez-de-chaussée de déjà un immeuble à logement, exemple, îlot Dorchester.
Ouais.
On prévoit qu'il y ait une épicerie à cet endroit-là. C'est un maxi ouvre là. Penses-tu que ça a des chances de réussir?
Probablement. Faut que ce soit. C'est, la chose est sûre, c'est faut que ce soit dans un secteur de densité. T'as pas le choix en partant. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Est-ce que les gens vont être prêts à modifier leurs habitudes puis dire « Ah, j'allais à l'épicerie, ça me prenait 5 minutes de voiture, je me parquais, maintenant je vais y aller, mais ça va me prendre 5 minutes de marche à la place.
Mm-hmm. »
La question se pose. Mais je pense que c'est un modèle qui peut fonctionner. Mais avec le centre-ville en ce moment, les travaux qui s'en viennent... Est-ce que c'est trop tôt pour un projet de ce type-là? Je m'explique, avec le tramway, une fois que les travaux vont être terminés, peut-être qu'un maxi pourrait être plus enclin à dire « je vais aller m'installer, pas de stationnement ». Mais en ce moment, je sais pas si ça peut fonctionner.
Ouais, mais on se projette dans le futur, là. T'sais, on se projette dans le futur où il y a un tramway, il y a plus de densité urbaine. Moi, je pense que c'est un concept qui peut fonctionner, compte tenu que... Tu sais, je te pose la question, là, t'es jeune professionnel, t'as pas encore d'enfants ou tu commences à avoir des enfants, t'habites en ville. C'est pratique de passer puis de dire, hey, au lieu d'acheter un pain à 4$, moi, l'acheter une pièce 99, non?
Ben ça, c'est sûr. Moi, pour de vrai, puis avec le prix d'épicerie, de voir de plus en plus de. Parce qu'avant, Maxi, il n'y en avait pas partout, hein. Il n'y en avait pas beaucoup.
Non, exactement. C'est, là, ça s'est développé depuis les publicités avec Martin et Matt, là, depuis une dizaine d'années, ça se développe à vitesse grand V.
Puis de voir des Maxi dire, hey, je m'en vais m'installer, tu sais, du côté de Montréal, là, je m'en vais m'installer proche de commerce un peu plus fine bouche, on va dire, comme ça, pour offrir une offre de service qui a aucunement dans le secteur. Ça, je trouve ça fantastique. Je t'en ai parlé tantôt. Dans le quartier étudiant à Québec, avant, il y avait le métro qui était à la pyramide. Puis sur Miran, c'était un Provigo. T'es étudiant. T'en as pas d'argent. Là. On va être honnête, t'en as pas d'argent. Le Provigo a été remplacé par un Maxi. Ça répond beaucoup plus...
Là, ça fait un job, exactement.
Ça répond beaucoup plus aux demandes dans le secteur. Fait que ça, de voir des maxis de proximité ouvrir à des places où que il n'y a pas nécessairement accès à de la nourriture plus abordable, je trouve ça fantastique.
C'est ça, puis c'est pour ça que je pensais à Saint-Roch, parce que Yannick, présentement, habite dans Saint-Roch, puis il disait toujours, hey, quand je vais au métro, Colin, ça me coûte cher avec mes enfants. J'aimerais ça avoir une épicerie plus bon marché. Il y avait un Intermarché dans le temps, mais même là, ça aussi, c'était cher. Fait c'est pour ça que je trouvais ce concept-là très intéressant. Pour actuellement, les gens sont plus mitigés par texto. Pour qu'on soit nous écrire au 418-971-1021. Il y a une personne qui nous parle. Hey, oui, c'est vrai, Crime, sur quartier, il n'y a pas d'épicerie. Ça pourrait être intéressant. Il y a d'autres personnes qui disent hey, faire la file plus souvent, bof, ça me tente pas vraiment. Hey, oubliez pas que 5 minutes en voiture et à pied, c'est pas la même distance par contre. En effet, moi, c'est pour ça que je le vois plus comme un commerce de proximité. Quelqu'un qui me dit hey, pourquoi on paye des taxes à la bouffe? Ça, c'est une bonne question, là, honnêtement. Ben, c'est sur les aliments qui sont pas propices à la consommation de saines habitudes de vie. Je peux comprendre, mais tu sais, le reste, là, tout ce qui est aliments qui te donnent des protéines et qui te permettent de bien t'alimenter, là, devrait jamais avoir de taxes là-dessus.
Oui, non, effectivement. C'est ça. Parce que je pense aussi, dans le quartier étudiant aussi, il y a un IGA qui s'est installé. En bas, au rez-de-chaussée d'un énorme immeuble à condo sur quatre bourgeois. Puis au début, moi, je pensais... Parce qu'il y a un stationnement...
Oui, je sais où t'en penses, je sais de quoi tu parles.
Il y a un stationnement souterrain à cette IGA-là. Puis avant que je sache qu'il y a un stationnement souterrain gratuit, j'y allais pas. Parce qu'il n'y avait pas de parking.
Mais là, tu le sais.
Là, je sais qu'il y a un parking, fait que j'y vais. Mm-hmm. Fait que je veux pas, je trouve qu'il y a quand même, surtout pour une épicerie, je trouve que ça fait une méchante grosse différence d'avoir un parking pour rendre ton commerce plus attractif.
Là. Non, en effet, t'as raison. On parle, mis à part les itinéraires, est-ce que le véritable niveau de revenu des soins du centre-ville dans les immeubles neufs correspond vraiment à la clientèle de Maxi? En effet, il y a des gens qui sont plus fortunés dans ces commerces-là.
Par contre,
dans ces habitations.
Mais je trouve ça intéressant comme point, puis c'est pour ça que je disais qu'à la Plaza de Montréal, je trouve ça intéressant. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, même dans des secteurs où que reconnus comme étant plus fortunés avant, de plus en plus, même les personnes qui gagnent plus cher ont de moins en moins de budget pour l'épicerie.
Ouais.
C'est pas juste...
En effet.
Tu sais, tu t'en vas au Maxi, là. Avant, j'ai l'impression que, il y a 10-15 ans, le Maxi, c'était un peu stéréotypé.
C'était très stéréotypé.
C'était stéréotypé.
Regarde, je vais te parler de moi, là. Il y a 15 ans, là, on n'allait pas au Maxi, on allait toujours au IGA. À cette heure, je vais toujours au Maxi.
De plus en plus de monde, que tu gagnes beaucoup d'argent ou pas, tu vois le prix des aliments monter, ton budget descend, t'as pas nécessairement les moyens d'aller dans les épiceries les plus dispendieuses. Puis même ceux qui pensaient jamais aller au Maxi, ben finissent par aller au Maxi parce que c'est l'option la plus abordable.
La différence est énorme à l'heure actuelle. Continuez de nous écrire, c'est super intéressant de vous lire. C'était super intéressant d'avoir les deux côtés de la médaille. Merci Mathias. Il y a Joël qui dit « J'habite à 200 mètres d'un dépanneur puis je prends mon char ». Bon, là Joël, on va se parler des saines habitudes de vie. Non, c'est une blague. Je comprends très bien.
Je suis comme
c'est
ça
dans
aussi.
Nos mœurs, c'est exactement. T'en disais, c'est dans nos mœurs. C'est entièrement raison. Puis un autre auditrice qui dit « Boy, ma boîte à couche, les bras, puis il n'y a rien d'autre vraiment que je peux prendre. » En effet, c'est pas donné pour tout le monde, mais je trouve quand même l'aventure intéressante à suivre dans le futur.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis le fait qu'ils payent le parking pour les épiceries de 100$ ou plus, ça aussi c'est intéressant par contre, parce que si cette option-là n'aurait pas été présente, j'aurais dit, ben là, tu peux c'est pas ça. Faire de vraie épicerie là-bas.
En effet.
Mais là, de dire, on va payer le parking si tu veux faire une plus grosse épicerie avec ta voiture, c'est intéressant aussi.
On fait une pause à Boulevard 101. Par la suite, on va continuer en matière économique. On va parler avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, selon l'Institut économique de Montréal, la gestion de l'offre, c'est 224$ de moins dans vos poches par année, par personne? Et on va aussi parler de Cuba qui, devant justement le blocus qu'il y a, va tenter d'ouvrir ses marchés à l'économie. Boulevard 101, 100% parlé en semaine avec une belle programmation. Ça commence le matin à 6h avec Marceau le matin. Ça se poursuit avec le point de max de 10h à midi. On en jase midi à 14h. 14h à 18h, c'est le retour de Gravel. Et Marceau le soir de 18h à 19h. Pas besoin de vous rappeler qu'il va mouiller. Il va pleuvoir très fort aujourd'hui. C'est 16 degrés. 20 degrés avec de la pluie pour vendredi. 16 degrés avec de la pluie pour samedi. Si on est chanceux, on va sortir de la pluie. En ce dimanche, Mathias, beaucoup de circulation ce midi.
Oui, je veux juste commencer avec un texto qui vient de rentrer. J'ai pas plus de détails pour l'instant, mais Kevin qui me dit accident, deux véhicules, voie de gauche et centre Laurentienne. en direction nord, en face du stade Canac, qui serait justement fermé. Donc, voie de gauche et centre. Si c'est le cas, ça va être très compliqué dans le secteur au cours des prochaines minutes. En parlant de compliqué dans le secteur, on se transporte sur la rive sud de la 20 en direction ouest, salée entre Taniata et Président Kennedy en ce moment. Du côté de la rive nord, capitale, direction est, c'est présentement entre Robert Bourassa et Neuville que c'est au rouge. En direction ouest, on parle d'entre Laurentienne et ça remonte jusqu'à Henri Bourassa. Ça, dans l'ancienne direction sud pour accéder à Capitale. Ralentissement dans le secteur aussi. Henri IV en direction sud pour accéder justement vis-à-vis chemin Sainte-Foy. Là, il y a des travaux dans le secteur. Léger ralentissement aussi. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto. Mais je vous le rappelle, c'est la mauvaise température qui fait ça. Déjà du trafic, on n'est pas sur l'heure de pointe. Donc préparez-vous pour un dur retour à la maison tout à l'heure.
Quand je me pose des questions sur l'économie, Mathias, puis que je lis des choses contraires, je me tourne toujours vers Gabriel Giguère, mon ami de l'Institut économique de Montréal, analyste politique senior. Puis là, m'en pose trois questions, donc on va lui adresser ces questions-là en ondes et je suis certain que ça va également éclairer nos auditeurs. Gabriel Giguère, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Gabriel, première question que je me pose, parce que je lis des choses, je lis tout et son contraire avec la gestion de l'offre, OK? Moi, j'ai toujours pensé que si on enlève la gestion de l'offre, il va avoir le libre marché, puis ça va me donner plus d'argent dans mes poches. Puis d'ailleurs, vous avez sorti une étude là-dessus aujourd'hui. Mais je lis la situation en Australie aussi. Dépendamment du média que je lis ça, il y en a qui me disent « Hey, ça va bénéficier justement aux particuliers, comme moi. » Puis il y en a d'autres qui disent « Hey, attention, il va falloir subventionner le système d'agriculture pour permettre aux producteurs laitiers d'être concurrentiels. » C'est qui dit vrai, Gabriel Giguère?
C'est une bonne question. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs pays qui sont passés de la gestion de l'offre, ou du moins, il y a quelques pays qui sont passés de la gestion de l'offre à l'abolition de ce type de politique-là. On t'a parlé de l'Australie, on peut également penser à la Nouvelle-Zélande, hein, qui ont décidé d'abolir là, dans les années 2000-1990. Et ce qu'on a vu, c'est que ce que ça permet de faire, l'abolition de la gestion de l'offre, c'est d'abord et avant tout de redonner de l'argent dans les poches des consommateurs. Parce que la gestion de l'offre, d'abord, c'est quoi? C'est une politique que le gouvernement met de l'avant pour réduire artificiellement l'offre de lait, d'œufs, de volailles en mettant de l'avant des quotas, des tarifs également sur les importations. Quand on pense au beurre, ça peut aller jusqu'à 200-300% de tarifs. Donc, ça vient vraiment réduire le choix pour les consommateurs et ça augmente artificiellement le prix. Donc, si on abolit la gestion de l'offre, nous, en tant que consommateurs, on va payer moins cher. Mais c'est aussi pour les agriculteurs que c'est une bonne chose. Hein? On entend rarement ça, mais la réalité, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est que depuis qu'on a aboli ça, on a été capable, auprès des agriculteurs laitiers notamment, de produire beaucoup plus parce qu'on n'avait plus un quota qui venait restreindre justement cette production-là. Et donc, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on a beaucoup augmenté la production de lait et on est devenu un grand importateur. Là, 80 à 90% du lait qui est produit en Nouvelle-Zélande est exporté. Alors, je pense qu'au Québec et au Canada, avec cette abolition-là, ça permettrait de réduire le prix pour les consommateurs et d'augmenter de beaucoup les exportations en matière laitière, mais aussi en matière de fromage. Là, on sait au Québec, on a d'excellents fromages.
Vraiment. Donc, ça permettrait à nos meilleurs d'être compétitifs sur le marché mondial puis peut-être bien de faire plus d'argent, au bout de ligne.
C'est exactement ça. Puis quand on pense aux consommateurs, c'est pas négligeable. Hein? Quand on prend le Canadien moyen, c'est une différence. Quand on prend le Canadien moyen et les cinq éléments principaux qui sont sous la gestion de l'offre, le lait, le poulet, les œufs, bien, ça fait en sorte que ça nous coûte en moyenne au Canada 224 $ de plus. Et ça, ce 224 $-là pour l'individu va varier en fonction de votre niveau de revenu. Autrement dit, les 20 % les moins nantis, c'est des ménages souvent qui sont plus petits et évidemment qui ont moins de sous. Donc, eux, c'est un petit peu moins de 300 $ que ça coûte par année pour un ménage du 20 % les moins nantis. Puis c'est plus que 1000 $ pour les mieux nantis. Par contre, ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est de voir que même si c'est moins d'argent pour les moins nantis, comme on a moins de sous, c'est 4 fois plus lourd à supporter pour leur portefeuille. Puis en économie, là, je dis un petit jargon, là, mais c'est régressif. Autrement dit, C'est une politique publique qui est mise de l'avant et qui fait surtout mal à ceux qui ont moins de sous, ceux à qui ça fait la différence, la pinte de lait, qui est un dollar de moins ou un dollar de plus. C'est peut-être la différence entre je vais l'acheter cette semaine puis je vais laisser sa tablette. Et donc, quand on va de l'avant avec une recommandation de politique publique comme ça, bien, c'est de dire c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'agriculteur, puis je mets même un pas de côté, là, en 2026, c'est bon également pour les négociations de l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Donc, on gagne sur tous les fronts.
Mettons qu'on dit que pour les consommateurs, c'est bon parce que, justement, ça réduit le coût. Ça, c'est logique. Les producteurs peuvent produire davantage. Est-ce qu'il y a quand même à avoir une crainte que du côté des producteurs, ce soit très bon pour les grands producteurs, mais que ce soit peut-être nocif pour les plus petits producteurs, les plus petites fermes?
Je pense que quand on ouvre à la concurrence, c'est sûr que c'est pas 100% des joueurs qui vont tirer leur épingle du jeu. Hein? C'est évident. On peut penser à d'autres secteurs agricoles, que ce soit le porc, le bœuf au Canada. Il y a des gros joueurs, il y a des joueurs qui sont capables d'augmenter leur efficience. Mais quand on met de la concurrence, quand on s'assure de ne pas venir protéger le marché, évidemment, c'est bon pour le consommateur, mais il y a également quelque chose de vertueux pour les producteurs. C'est une incitation économique à l'amélioration continue. Parce qu'à partir du moment où vous avez votre quota de gestion de l'offre pour le lait, mais là, votre pression d'amélioration, elle est moindre qu'une ouverture à la concurrence.
Mm-hmm.
Donc, d'abolir la gestion de l'offre serait positif en la matière. Est-ce que 100% des producteurs vont rester sur le marché? Peut-être que non. Peut-être qu'il va y avoir une réallocation des ressources. Mais je pense qu'au final, sur le plan économique, sur le plan de la consommation, on va gagner. Il faut pas oublier quelque chose aussi. La gestion de l'offre, les quotas laitiers notamment, c'est une double barrière, une barrière à l'entrée. Quand on a des jeunes qui veulent devenir agriculteurs, qui vont aller au cégep, qui vont faire leur technique, qui aspirent à avoir une ferme, bien, c'est extrêmement difficile parce que c'est très cher, plusieurs dizaines de milliers de dollars le quota pour une vache laitière. Donc, il y a un impact sur l'entrée, hein, pour l'entrée sur le marché, l'entrée pour l'achat d'une ferme, je devrais dire, au Québec et au Canada, mais il y a également une barrière pour la croissance parce qu'à partir d'un certain niveau, vous ne pouvez plus produire de lait même si vous pourriez l'exporter. Donc, ça vient vraiment restreindre l'entrée et l'expansion de nos fermes au Canada.
Ah, en effet, ça décourage déjà les jeunes entrepreneurs. Gabriel, deuxième question pour toi. On est en baisse de 31 milliards de nos exportations vers les États-Unis, évidemment, en 2025 par rapport à 2024. C'est dû aux tarifs, c'est une baisse de 5,2%. Mais la presse m'apprenait qu'on a bondi de 17,9 milliards d'exportations vers le Royaume-Uni, 8,1 milliards vers l'Union européenne et 5,3 milliards vers les pays où on n'a pas d'accord de libre-échange, ce qui fait en sorte que la différence serait seulement une diminution de 0,15%. Est-ce que ces chiffres-là sont exacts? Parce que je me dis, crime, on est en récession technique. Il me semble que j'ai de la misère à croire à ça.
Bien, c'est super intéressant comme chiffre. Puis ce que ça vient nous dire, là, c'est très clair. C'est qu'au Canada, on a été capable d'avoir une certaine diversification. Je pense pour le Québec, là, à l'aluminium, où on en voit davantage en Union européenne. Puis ça, on le voyait en octobre 2025, hein, on avait des articles qui expliquaient que certes, on a une baisse de l'exportation aux États-Unis, mais on exporte davantage en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas. Et donc, on contribue, là, le Québec, à cette diversification à travers les produits métalliques. Là, si
genre ben vraiment, parce que c'est seulement 14% maintenant de notre PIB qui est lié aux exportations américaines. L'Ontario, c'est 21% et 34% pour l'Alberta. Fait qu'on s'en sort vraiment bien.
On s'en sort vraiment bien. Puis c'est sûr qu'après ça, c'est une question de produit qui est transigé. L'Alberta, c'est le gaz naturel, le pétrole.
Ouais, c'est ça.
Puis les pipelines sont là. Donc, c'est normal sur le plan économique que ça aille directement aux États-Unis. Mais même ça, là, c'est dit dans l'article, puis c'est passé un peu sous silence, même si c'est mentionné rapidement. Mais un des facteurs aussi qui a joué, si on sort un petit peu de l'Europe, puis plus vers les marchés asiatiques, c'est le pétrole. C'est avec Trans Mountain Pipeline où on a été capable d'augmenter de beaucoup notre envoi de pétrole en Chine, notamment. Puis quand on voit la mise en service d'une usine de gaz naturel liquéfié, ce qu'on constate, c'est que ça augmente les exportations en Corée du Sud, au Japon notamment. Donc, il y a vraiment des acheteurs là, pour ce type de produits-là, puis ça aide à la diversification, pas juste de ces produits-là, mais plus largement de l'ensemble des exportations canadiennes sur d'autres marchés. Donc, il y a des aspects positifs, mais un élément qu'on doit constamment garder en tête, c'est l'importance de la renégociation de l'accord libre-échange Canada-États-Unis. Parce que certes, on est en récession, on le dit, la baisse était très faible, hein, faut quand même le dire, dans le dernier trimestre. Donc, c'est une récession. Par contre, faut se rappeler que la raison pour laquelle on a été résilient comme économie, c'est parce qu'on avait cet accord de libre-échange, c'est parce qu'on avait énormément d'exceptions. Alors, il faut s'assurer d'avoir un bon accord de libre-échange et ça me permet toujours de faire le point avec le premier sujet de notre conversation. Il va falloir faire des concessions et je pense que la gestion de l'offre, maintenant qu'on sait que c'est bon pour les consommateurs et c'est bon pour une bonne partie des producteurs, ben ça serait également bon pour nos politiciens dans un rapport diplomatique de négociation.
Non, tu as entièrement raison. C'est un excellent point. Hey, Gabriel Jugard, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On se reprend la semaine prochaine.
C'est un plaisir.
Excellent. Salut, Gab.
Bye-bye.
Gabriel Jugard, analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. Courte pause, on aura Karim Elayoubi qui va venir s'installer avec nous. C'est le nouveau candidat dans Chauveau pour le Parti conservateur du Québec. Je sais qu'il y a quelques minutes de retard. Si jamais il n'est pas arrivé, on vous informera tout simplement. Il est présentement 13h35 minutes. L'application BLVD 102.1, meilleure façon de nous écouter, disponible gratuitement sur App Store, Google Play Store. Vous êtes à la maison, vous avez un haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD 102.1, on apparaît dans vos oreilles ». Ça vous permet aussi de savoir les nouvelles fraîches de la circulation. Mais je regarde au loin, Mathias, c'est bouché partout.
Ah, c'est pas facile. Je commence avec un accident qui a eu lieu au cours des dernières minutes. C'est Laurentienne en direction nord, à hauteur du Stade Canac. Hauteur rue de la Croix-Rouge, vraiment dans la courbe. Il y a eu un accident. Les services d'urgence sont sur place, mais la voie de gauche et la voie du centre qui sont bloquées. Étant donné que c'est dans la courbe, on ne voit pas nécessairement d'avance l'accident, donc faites attention si vous êtes dans le secteur. Bien sûr, ça crée un léger ralentissement. Je vous transporte sur la rive sud parce que la 20 direction ouest, c'est difficile depuis le début du show. C'est encore entre Taniata et Président Kennedy que c'est au rouge. Sur la rive nord, Capitale direction est, c'est là le plus gros ralentissement, surtout à hauteur de Robert Bourassa. Laurentienne direction sud pour accéder à l'autoroute de la Capitale, c'est au ralenti aussi. 40 direction sud... En fait, 73 direction sud, excusez-moi, Henri IV, à hauteur de boulevard du versant nord, c'est au ralenti en raison des travaux dans le secteur du chemin Sainte-Foy. Il y a un petit nouveau là qui s'est joint à la partie autoroute du Plessis en direction sud, à hauteur du versant nord aussi. Il y a un ralentissement dans le secteur, mais ça semble anormal. Si vous avez des informations, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias. Mathias, breaking news, grosse nouvelle!
Un miracle s'est produit.
Oui, ce n'est pas la naissance du Christ ou du petit Jésus, mais c'est bien une candidature pour la CAQ dans Brome, Missisquoi. Ça va être annoncé samedi 10h30.
Oui, exactement. On n'a pas nécessairement de détails, du moins pour l'instant, les médias qui se sont fait inviter pour cette fameuse annonce de candidature-là dans la circonscription de Brome, Missisquoi. Présentement, c'est Isabelle Charret pour la CAQ qui a été élue dans cette circonscription-là. Selon les projections de QC 125, la CAQ est à 20%. Troisième derrière le PQ à 24 et le Parti libéral à 34% dans cette circonscription. Là. Mais la raison pourquoi on l'attend avec impatience, c'est que c'est la première vraiment annonce d'un nouveau candidat pour la coalition
Avenir
Québec.
Comme c'est ta première annonce, que tu en as perdu à peu près 33-34 de ton ancien gouvernement, faut que ça soit une grosse pointure.
Pas le choix.
Ça n'a pas le choix d'être une grosse pointure parce que à 14% dans les intentions de vote selon Québec 125, faut que tu marques le coup avec un gros nom pour venir dépasser le PLQ. C'est une circonscription qui a été détenue par Isabelle Charret depuis 8 ans avec des pourcentages, là, ma foi, très élevés de 44% et 45,9% à ces deux élections. Mais ça avait été un 44,5% en 2014 pour le PLQ. Donc, c'est une circonscription normalement qui revient au Parti libéral.
En parlant justement de la CAQ qui perd ses membres sans arrêt, c'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui a annoncé ce matin qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines élections, en parlant notamment de raisons familiales. T'en as parlé, Jeff, on est rendu au-dessus de 30 candidats caquistes qui décident de ne pas se représenter. Pour mieux soutenir les proches aidants, le gouvernement du Québec a présenté son nouveau plan d'action pour les personnes proches aidantes. Le plan qui s'échelonne de 2026 à 2031 s'accompagne avec une enveloppe de 300 193 4 millions de dollars avec comme objectif notamment d'augmenter les ressources en répit pour les proches aidants. Un protocole d'accord a été signé hier entre les États-Unis et l'Iran. Voici les principaux points de cet accord. On parle d'un cessez-le-feu de 60 jours entre les États-Unis, leurs alliés et l'Iran et leurs alliés dans le secteur au complet. Donc, ça inclut aussi le Liban qui ne cesse d'être bombardé par Israël au cours des dernières semaines.
Ben, hâte de voir si ça va tenir.
on prévoit un accord final, justement, durant ces 60 jours-là. On parle de la réouverture du détroit d'Ormuz, la fin du blocus américain et une enveloppe de 300 milliards des États-Unis pour l'Iran visant à la reconstruction et le développement économique de l'Iran.
Le médecin Karim El-Ayoubi est avec nous dans quelques instants à l'émission On en jase. C'est le nouveau candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Chauveau. On a le plaisir de terminer l'émission avec le nouveau candidat dans Chauveau pour le Parti conservateur du Québec, le Dr Karim El-Ayoubi. Monsieur El-Ayoubi, merci d'être présent en studio avec nous.
Ben merci. Merci à vous deux pour l'invitation.
Fait plaisir. On en a parlé hors d'onde. On se fait pas de cachette. Chauveau parce qu'on veut gagner.
Ben, c'est-à-dire, il y a plusieurs raisons. Moi, je connais quand même très, très bien la ville de Québec. J'ai demeuré 8 ans à Québec. J'ai fait mon doctorat en médecine à Québec. Je suis originaire de Chicoutimi. Certains vont reconnaître l'accent. Québec, je connais la ville depuis que j'ai 3-4 ans, que je connais bien la ville de Québec. C'était une ville qui était très centrale dans mon développement, dans ma vie et personnelle et professionnelle. Donc, oui. Et Chauveau, ben, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, je veux dire, on s'en cache pas à un moment donné quand on se lance en politique.
Ben oui, je regarde Québec 125. PCQ est en avance à 33%, PQ à 26%.
Exactement. Et aussi, c'est important qu'à un moment donné, lorsqu'on donne toute cette énergie-là pour faire une campagne électorale puis pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer d'apporter des nouvelles solutions pour les Québécois, ben c'est intéressant d'aller dans un endroit où est-ce que les gens sont réceptifs à nos idées. C'est pas les idées conservatrices. Chauveau est un secteur où est-ce que les idées conservatrices sont, de façon générale, très bien reçues. Ce que j'ai pu voir en discutant aux gens, également, il faut se souvenir, Chauveau ont élu la CAQ. Mais la CAQ, lorsqu'on regarde les promesses qu'ils avaient faites, notamment en matière de santé et dans d'autres secteurs également, en matière économique, ils n'ont pas livré la marchandise, mais il y avait plusieurs idées conservatrices. Là. Et on voit que la circonscription de Chauveau semble très déçue. Du fait que la CAQ n'a pas bien délivré.
Mais vous êtes quand même en quelque sorte un candidat parachuté pour gagner. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines personnes ont en quelque sorte un malaise avec cette façon-là de faire?
Bon, je veux dire, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais la chose principale, c'est est-ce que le candidat en question... Est-ce que les idées qu'il amène et est-ce que sa façon de défendre ses idées pour représenter la population, c'est ce qui va vous servir le plus? Moi, en tant que citoyen, c'est de cette façon-là que je le vois, personnellement. Et comme je dis, je veux dire, j'ai demeuré 8 ans dans la ville de Québec. Je connais très bien la ville de Québec. Donc, c'est comme si je revenais à la maison d'une certaine façon.
Le PCQ a fait la manchette dernièrement en raison des boissons énergisantes. Votre œil, votre cerveau de médecin vous dit quoi par rapport aux boissons énergisantes?
Bien, c'est certain que les boissons énergisantes, c'est pas bon. Pas bon pour personne. Mm-hmm. C'est pas bon pour c'est scientifiquement parlant, c'est pas bon pour les jeunes, c'est pas bon pour moi, pour vous également. OK? Donc, si mieux, conseil de médecin, n'en prenez pas.
Parfait.
Ça c'est
réglé.
C'est carrément réglé. C'est comme, je veux dire, beaucoup d'autres choses, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un lien entre les boissons énergisantes, la prise concomitante de boissons énergisantes, c'est-à-dire à forte teneur en caféine, et la prise de psychostimulants pour provoquer une arythmie? Ce que la science nous dit à l'heure actuelle, c'est oui.
Okay? Okay.
Maintenant, la position du Parti conservateur du Québec, c'est pas de ne pas légiférer, c'est de laisser les parlementaires faire leur travail, qu'il y ait des consultations, et on n'a pas bloqué du tout le projet, mais on s'est dit, on veut savoir est-ce que l'interdiction, OK, par rapport à la littérature internationale des diverses santé publiques, est-ce que l'interdiction est la meilleure façon de fonctionner? Si c'est oui, c'est correct, on l'interdit. Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder aussi pour avoir la meilleure politique de santé publique possible, c'est-à-dire meilleure prévention, meilleur enseignement aux médecins, pharmaciens, professionnels de la santé, infirmières, pour qu'ils fassent plus de prévention lorsqu'on prescrit un psychostimulant, lorsqu'on a un patient. Bien s'assurer de lui passer le message. Un peu comme on fait maintenant avec le tabac.
Ça sera la même chose aussi pour... on me parle ici par texto des pilules de caféine pré-workout, dans le fond.
Tout à fait, tout à fait. C'est que quand vous regardez, puis et c'est le même principe. Là, si vous prenez des psychostimulants, allez pas vous taper 4 cappuccinos glacés. Là, c'est très dangereux. Là. Donc, je pense que le but, c'est d'avoir la meilleure politique publique pour protéger les jeunes, naturellement. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est l'interdiction qui est la meilleure solution? Et où est-ce que c'est l'interdiction plus d'autres solutions? Mm-hmm. Ou est-ce que c'est d'autres solutions? Non. Et c'est là que les parlementaires ont un travail à faire. La seule chose que Mme Blanchet-Vézina a demandé, c'était de rencontrer les experts, leur poser des questions et mettre quelques amendements dans le projet de loi pour s'assurer que si on décide de l'interdire, ce qui est le cas en ce moment, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi pour savoir est-ce qu'on remplit nos objectifs.
Non, je comprends tout ça, mais n'empêche, vos oreilles ont dû friser un peu quand vous avez entendu l'histoire du pamplemousse.
Oh non, c'est qu'il y a une technicalité ici. Là. Moi, le pamplemousse comme tel, la différence, c'est que le pamplemousse, par exemple, il peut avoir des interactions avec des médicaments, dont la statine. Mm-hmm. La différence, c'est que c'est pas...
C'est pas
mortel instantanément. Mais le but, quand Mme Blanchet-Vézina a dit ça, le but, c'était quoi? C'était de dire, regardez, laissez-nous les parlementaires une semaine. On n'est pas pressé de partir en vacances. On va prolonger la session, puis on va bien poser les questions aux experts afin d'arriver avec le meilleur projet de loi possible. Donc là, on a stické sur le pamplemousse, mais lorsqu'on stique comme
ça... C'est pas sa meilleure déclaration.
Mais mon point, c'est qu'on en perd le fond. Lorsqu'on stique sur un petit détail comme ça, on perd complètement le portrait général.
Vous êtes un bon joueur d'équipe, M. Laoubi, j'aime ça. Moi, je rêve qu'on va avoir un hôpital public d'un côté de la rue et un hôpital privé de l'autre côté.
C'est ça
que le monde va pouvoir aller au public. Puis que s'il y a un délai d'attente trop élevé, ben avec ma carte de la RAMQ, je vais traverser la rue, puis on va m'opérer. C'est-tu trop rêvé de penser ça?
Ben c'est pas trop rêvé, parce que ça existe un peu partout sur la planète. C'est ça que, vous l'avez très bien expliqué, en réalité, c'est simple.
Oui, c'est que tout le monde va au public, mais quand il n'y a pas de place, ben ceux qui veulent payer pour le privé, qui payent. Mais si moi, en tant que contribuable, j'ai pas l'argent pour aller au privé, si, exemple, mon délai d'attente est de 6 mois, puis c'est jugé inacceptable par le gouvernement, ben on me dit, va attendre soigner là, puis c'est moi qui paye.
Parce que vous avez un assureur. Imaginez-vous que votre automobile est brisée, OK? Vous avez un accident ou la mécanique. Puis là, vous appelez votre assureur. Votre assureur, il dit, ben dans votre contrat, on est supposé de vous prêter un véhicule, mais bon, on n'a pas. Puis là, il dit, ouais, mais quand est-ce que je vais avoir mon véhicule? Là, il regarde, il dit, bof, pas avant 7-8 mois. Vous allez dire, ouais, mais là, comment je vais travailler? Ben, ils vont dire,
j'aime votre comparaison.
Ben, c'est un peu le même principe. Et également aussi, si on a de multiples acteurs privés qui se concurrencent, on va se rendre compte que le public va être meilleur pour certains types de soins.
Convaincu.
Et que le privé va être meilleur pour certains types de soins. Et à partir de ce moment-là, comme le partenariat privé-public avec la ZICMD, la chirurgie de la cataracte, c'est privé, la ZICMD, mais votre carte, l'État sous-contracte pour faire en sorte que le fournisseur de soins, il est géré de façon plus efficace, donc il peut faire plus d'interventions.
Oui, mais c'est ça. Puis en santé, ça coûterait moins cher de sous-contracter que de toujours créer des grosses structures, je me trompe pas?
Si on a de multiples fournisseurs, comme plusieurs pays européens, par exemple, comme Taïwan, qui est un excellent modèle de santé, les Pays-Bas, l'Allemagne. Si on a de multiples fournisseurs, la réponse, c'est oui, parce qu'il y a un phénomène de concurrence sur le marché. Si vous avez juste 2-3 fournisseurs, le but, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de monopole, puis on ne veut pas qu'il y ait d'oligopole. On ne veut pas qu'il y ait un monopole public, mais on ne voudrait vraiment pas qu'il y ait un monopole privé non plus.
En effet.
Ce qui est mauvais, c'est pas les êtres humains au privé et au public, c'est les mêmes. Ce qu'on veut, c'est de la concurrence, parce qu'à partir du moment où il y a de la concurrence, il n'y a pas de monopole, et les coûts baissent, l'efficacité augmente, l'efficience augmente, puis c'est bon pour le citoyen, c'est bon pour le payeur de taxes, mais c'est bon pour le patient aussi.
Je termine l'entrevue là-dessus. Christian Dubé a déposé un mémoire. Il a joué au beau-père là, avec la CAQ cette semaine en déposant son mémoire sur la santé. Vous retenez quoi, vous, du passage de Christian Dubé comme ministre de la Santé?
Moi, j'ai été déçu de Christian Dubé. Pourquoi? Parce que je me rappelle en campagne, en 2022, Moi, je le trouvais bon, Christian Dubé. Ouais. Je trouvais son programme. Il nous, je me posais la question, je me dis, coudon, il nous prend-tu des idées? Mais,
coudon, je vais-tu aller travailler pour lui?
Mais il y avait quand même, avec Youri Chassin, il voulait faire des projets pilotes de deux mini-hôpitaux privés. Après ça, il a fait quand même quelque chose de bon, OK, qui a réussi. Je veux lui rendre ça. C'est que le partenariat privé-public pour la chirurgie de la cataracte, ça, on a des délais d'attente qui ont diminué. Lorsqu'on regarde les nouvelles métriques, on est rendu à 65 semaines d'attente. On a déjà été au-dessus de 2 ans. Donc, c'est
parfait.
Donc, ça, c'est bon. Faut lui rendre. Je pense que ça a été un excellent gestionnaire. On avait des attentes peut-être démesurées en raison de son CV qui est colossal, mais il s'est heurté à certains. La machine est féroce. Il a fait quelques bons coups, disons. Faut lui rendre ça. Mais aussi, quand on l'entend parler, une chose que je retiens, c'est que le big boss, c'est toujours le PM. Hein, c'est le chef.
Ouais.
Le big boss. C'est sûr que lorsque M. Legault lui a demandé d'aller négocier avec les médecins à coup nul, t'arrives à coup nul, la négociation, ça va être...
Avec un coût de la vie qui augmente, puis on demande plus de productivité. Puis donc, en effet, il était dans des situations qui étaient perdantes.
Tout à fait.
Yes. Merci beaucoup, M. Elaoubi, de vous être présenté aujourd'hui. Au plaisir de se reparler durant la campagne électorale, puis de vous voir comme un nouveau citoyen de Québec dans votre circonscription de Chauveau.
Ça m'a fait plaisir.
Cool, merci beaucoup. Mathias, on se laisse en parlant sport. Coupe du monde, 18h ce soir, c'est le Canada contre le Qatar. Ça prend au moins une victoire pour passer à la ronde suivante.
Absolument, un match à surveiller très, très important pour le Canada.
Le retour de Gravel s'amène immédiatement en onde. Nous, on se parle demain à midi. Salut, guys!